Bon, je pense qu'on peut y aller. Bon, monsieur, je vais commencer, s'il vous plaît, par vous demander votre nom et votre date et lieu de naissance.
Attends, il faut que je le mette bien.
Oh. Je vous aide.
Ça va aller, là, c'est bon comme ça.
Oui.
Je suis donc Patrick Vivray et je suis né le 16 mars 1948 à Créteil.
À Créteil.
Oui, dans le Val d'Oise.
Et votre famille est d'origine parisienne ou?
Non, j'ai une partie de ma famille du côté paternel qui est de la région parisienne. Du côté de ce qui était avant la Seine-et-Marne, qui est maintenant le Val d'Oise, et l'autre partie du côté maternel est de Haute-Savoie.
Oui, d'accord.
Ça vous dérange pas
si
on va...
Comme je
croyais qu'elle n'était pas là ce matin.
Ah, d'accord. Donc du côté de votre mère, c'est la Haute-Savoie.
C'est la Haute-Savoie. Et c'est une famille qui a été elle-même immigrée, puisqu'elle s'appelle Lucchini, L-U-C-H-I-N-I.
Ah oui, immigrée de l'Italie.
Elle a anciennement d'Italie, puis ensuite elle est passée par la Suisse.
D'accord. Et donc, du point de vue, qu'est-ce qu'il faisait votre père professionnellement?
Il était expert comptable.
Oui. Et votre mère travaillait ou était à la maison?
Elle était à la maison, mais elle avait travaillé pendant la guerre comme infirmière dans la résistance. Et quand elle l'a pu, elle a, notamment quand ils sont partis quelques années en Afrique, elle a exercé comme infirmière ou comme aide-soignante.
Donc elle a rejoint la résistance à avec qui
En Haute-Savoie, c'était un maquis de francs-tireurs et partisans, mais c'était un maquis qui était dirigé par Maurice Herzog, l'alpiniste bien connu, qui a été aussi ministre des Sports sous le général de Gaulle.
Et elle est partie en Afrique avec...
Oui, quand mon père a été envoyé par les Nations Unies pour aider la Banque de Développement du Mali à Bamako, elle est partie avec lui pendant 5 ans.
Vers quel moment, ça?
C'était vers 1973, à peu près.
Ouais, d'accord. Et votre père a vécu une guerre plus paisible?
Il était trop jeune pour être mobilisé. Enfin, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas eu le même engagement que ma mère.
Et puis, du point de vue politique et religieux, où est-ce qu'il se situait?
Dans la tradition, ils étaient de gauche et dans la tradition du christianisme social. Et ça a correspondu aussi au moment où, derrière Pierre Mendès France, il y a eu un certain nombre de chrétiens qui se sont retrouvés à gauche.
Parce que quand on dit christianisme social, ça couvre une multitude de courants, non?
Oui, mais comme son nom l'indique, c'est quand même des courants qui se voient dans une perspective de transformation sociale.
D'accord. Et donc, les deux parents, ils pensaient comme ça, enfin, ils avaient la même perspective sur ce christianisme social après la guerre.
Oui, ma mère avait été aussi dans la jeunesse ouvrière chrétienne. Et mon père, lui, ses parents étaient des catholiques beaucoup plus traditionnels et conservateurs, mais il était en réaction contre ses parents.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme études secondaires et supérieures?
J'ai fait des études au lycée Joliot-Curie à Nanterre, qui ont ensuite débouché sur une licence et une maîtrise de philosophie, puis un CAPES de philosophie, et puis de l'autre côté, j'ai fait des études et j'ai eu le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris.
Donc vous avez fait à la fois Nanterre et Sciences Po.
Voilà.
Et ça se faisait facilement, il n'y avait pas trop de travail ou...
C'est-à-dire il y avait une équivalence qui permettait d'être dispensé de l'année préparatoire de Sciences Po après la licence.
Ah d'accord, donc vous avez fait la licence d'abord.
La licence, et puis conjointement avec l'Institut d'études politiques de Paris, la maîtrise et le CAPES de philosophie.
D'accord, donc vous êtes centré à Nanterre en quelle année?
Ah ben Nanterre, moi j'y suis depuis l'âge de 10 ans et demi, puisque j'y suis rentré au moment de la sixième
Oui, au
au
lycée.
lycée. Et à la faculté, ben, j'ai dû y rentrer en 65 à peu près, je pense.
Et Sciences Po plus tard.
Et Sciences Po, ben, j'y suis rentré en septembre 68.
Et vous étiez à Nanterre parce que ça vous a tenté comme université nouvelle ou parce que c'était dans votre quartier, parce que les gens de l'ouest de Paris étaient portés sur Nanterre, c'est ça?
Ben, moi, j'habitais Nanterre.
Oui.
J'étais, enfin, à cette époque-là, je n'habitais plus Nanterre, mais j'étais resté au lycée à Nanterre.
Oui.
Donc, géographiquement, c'était logique que j'y sois, et ça m'intéressait aussi de vivre comme nouvelle expérience le campus de Nanterre. Et comme par ailleurs, j'ai demandé une chambre à la cité universitaire, c'était plus commode pour moi.
Et quelles étaient vos impressions de Nanterre à ce moment-là?
Nanterre était marqué par une situation où spatialement on voyait tous les grands problèmes sociétaux de l'époque, puisqu'il y avait l'immense bidonville qui était encore présent. La zone de la faculté était une zone très désertique qui s'appelait d'ailleurs Nanterre la Folie. La gare qui la desservait s'appelait Nanterre la Folie.
Oui.
Et de l'autre côté de la cité universitaire, il y avait d'une part une caserne et puis d'autre part ce qu'on appelait la maison des petits vieux de Nanterre.
Oui.
Donc avec une grande misère sociale, la question des bidonvilles, la prégnance militaire. Donc il y avait beaucoup de conditions qui étaient réunies pour des prises de conscience individuelles
Oui.
et collectives à Nanterre.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre apprentissage politique? À quel moment et pourquoi vous avez eu cette ambition de militer ou de vous engager et dans quoi?
D'abord, moi j'ai eu des engagements sociaux relativement tôt, puisque dès la période de mes études secondaires, je suis rentré à la jeunesse étudiante chrétienne, où j'ai été très, très actif. Je suis
Oui.
devenu assez rapidement responsable du lycée, puis après j'ai été responsable fédéral, puis j'ai été responsable régional de la région parisienne, ensuite j'ai été à l'équipe nationale de la jeunesse étudiante chrétienne.
Oui.
Et donc à travers la GEC, j'ai eu une sensibilisation à la plupart des grandes questions collectives, et y compris sur le plan politique. Donc c'était en quelque sorte assez naturellement que je me suis retrouvé intéressé par le syndicalisme étudiant, actif dans les mouvements qui se sont développés à Nanterre à cette époque. Et puis par ailleurs, mes parents ayant été dans la tradition de la gauche nouvelle et du mendésisme, j'ai été assez vite intéressé par Michel Rocard et le Parti Socialiste Unifié, notamment parce que mes parents avaient déménagé dans les Yvelines.
Oui.
Et Michel Rocard s'était présenté à l'époque dans la 4e circonscription des Yvelines, qui était l'endroit où mes parents habitaient. Et donc ça m'avait donné l'occasion d'assister à des réunions, de rencontrer Michel Rocard, de voir des gens du Parti Socialiste Unifié, qui était à l'époque le seul parti qui était vraiment ouvert sur les questions nouvelles, qui avait été à la fois le parti en pointe dans la lutte contre la guerre d'Algérie et qui a été le parti le plus ouvert aux aspirations nouvelles de mai 68 et de ce qu'on appellera après le courant autogestionnaire.
Parce que vous avez rencontré Michel Rocard à quel moment ?
En 1967, la première fois.
C'est l'année de son élection aux Yvelines ?
Non, son élection aux Yvelines, elle intervient 2 ans plus tard lors d'une élection partielle en 1969 contre le premier ministre de l'époque qui était Maurice de Couvetet-Murville.
Ah ouais, d'accord, qui a gagné.
Oui, et Rocard, à la surprise générale, a gagné. Ça,
ouais,
ça a été le début de sa carrière politique connue, quoi. Il était connu dans un certain nombre de cercles militants, mais là, il a été beaucoup plus connu.
Et donc, dans le monde plus large, vous avez été marqué par la guerre d'Algérie, ou vous étiez trop jeune, ou c'était la guerre
du
Vietnam?
Moi, j'étais trop jeune par rapport à la guerre d'Algérie, mais je me sentais dans la filiation des personnes et des acteurs qui avaient combattu la guerre d'Algérie. Puis par contre, j'ai été évidemment beaucoup plus sensibilisé en direct par la guerre du Vietnam, donc j'étais dans les réseaux de lutte contre la guerre du Vietnam. Mais moi, j'étais toujours dans une perspective de lutte non violente.
Oui, d'accord.
Donc, par exemple, j'étais pas partisan de la partie des comités Vietnam qui prônaient la lutte violente ou armée.
Parce qu'il y avait des comités Vietnam et des comités Vietnam de base.
Oui.
Mais
ils
veulent manifester, c'était la même chose que la violence.
Non, il y a les divisions entre comité Vietnam national et comité Vietnam de base étaient plus des différences liées aux orientations politiques et aux différences, notamment aux différences entre les groupes d'extrême gauche de l'époque. Le comité Vietnam de base était plus d'inspiration maoïste, le comité Vietnam national était plus d'inspiration trotskiste. Mais moi, je n'étais pas directement dans ces comités. Je participais plus au mouvement plus large de la société de l'époque,
oui,
contre la guerre du Vietnam, quoi.
Mais à Nanterre, est-ce que vous avez pu éviter le mouvement du 22 mars?
Ah ben, moi, j'étais dans le mouvement du 22 mars, mais le mouvement du 22 mars, c'était un mouvement non violent, hein.
Oui.
C'était un mouvement très pluraliste, où toutes les tendances pouvaient s'exprimer, et c'était un mouvement non violent, et on peut dire que c'était un mouvement plutôt festif et ludique, à l'image d'ailleurs de Daniel Cohn-Bendit.
Que vous avez connu à l'époque, bien sûr.
Oui, oui, oui. Oui.
Quels sont vos souvenirs de lui, de cette époque ?
Ben, c'est surtout un souvenir de quelqu'un qui était un vivant au sens fort du terme, quoi.
Oui.
Il avait une curiosité, une imagination, un désir de vie qui faisait qu'il était en décalage par rapport à toutes les formes de militantisme traditionnel d'extrême gauche, y compris des groupes anarchistes. Et même si à l'époque il était d'extrême gauche et marqué dans une tradition anarchiste, on sentait bien qu'il y avait en lui une curiosité et une ouverture plus large que sa propre tradition politique.
Oui, d'accord, parce que enfin, je viens de lire son dernier bouquin, Fouquet 68, et là il raconte que vraiment, c'était une 68, c'était une révolte, mais pas très politique. Il insiste sur le côté, voilà, comme vous dites, ludique, festive, subversive, culturel de ce moment-là. Et je me demande si c'était un peu une relecture depuis maintenant, puisque la politique est un peu discréditée. Est-ce qu'on pourrait à l'époque séparer ce qui était politique et ce qui était culturel?
Mais, moi, la façon dont j'ai vécu cette période-là, c'était déjà une nouvelle approche de la politique.
Oui.
Mais cette nouvelle approche de la politique qui était marquée justement par l'importance accordée aux questions culturelles, aux questions sociales, aux questions de changement de mode de vie et aussi aux questions internationales, était pas mal en décalage avec les postures de l'extrême gauche qui pour oui. nous étaient en fait de la politique tout à fait traditionnel, quoi, dans les modes d'organisation, dans la conception, dans l'obsession d'un pouvoir à prendre, alors que ce qu'on vivait, nous, c'était plus du pouvoir à créer que du pouvoir à prendre. Moi, je le ressentais déjà à l'époque, ce décalage. J'avais beaucoup de copains ou quelques amis qui étaient dans les groupes d'extrême gauche.
Oui.
Et je leur disais, vous êtes en train de passer à côté du meilleur de ce mouvement, quoi. Parce que forcément, ils étaient tellement pris par oui. Les objectifs organisationnels de ce qu'ils estimaient, la préparation, par exemple, d'un parti révolutionnaire, qu'ils n'étaient pas dans les lieux de parole, dans l'imagination créatrice, dans le caractère festif du mouvement. Et je trouve que ça a été d'ailleurs bien exprimé dans le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans,
oui, oui.
où on voit justement Michel Recanati découvrir après coup qu'il était complètement passé à côté de la saveur de 68 parce qu'il était trop occupé par les problèmes d'organisation, de service d'ordre, de logique intérieure à la Ligue communiste de l'époque. Et du coup, cette dépression terrible qu'il a connue après et qui a contribué à son suicide. Ça me paraît assez révélateur.
Oui, d'accord.
De ce qui était déjà à l'époque, enfin quand on le vivait, le sentiment que l'extrême gauche n'exprimait pas l'inédit de 68.
D'accord. Vous l'avez connu, Recanati?
Je l'ai côtoyé, je ne peux pas dire que je l'ai,
oui. Oui.
Que je l'ai connu. Hein. J'ai participé à plusieurs réunions où il était, mais je ne l'ai pas connu personnellement.
Mais les gens que vous avez connus dans le mouvement du 22 mars, qui pensaient comme vous, à part de Cohn-Bendit, c'était qui?
Ben, c'était pas les leaders.
Oui.
Parce que les leaders officiels, parce que le mouvement du 22 mars, il exprimait lui-même, dans son organisation informelle, ses deux facettes.
Oui.
Parce que d'un côté, il y avait les représentants de tous les groupes politiques de l'extrême gauche, c'était plus large que l'extrême gauche, mais tous les groupes politiques tenaient surtout à l'époque où le mouvement du 22 mars était très dynamique, à être présent. Donc ça, oui. C'était le côté un peu cartel. Et puis, il y avait le mouvement du 22 mars plus à la base, où là les gens étaient moins connus, mais oui. où ils étaient aussi beaucoup plus drôles et imaginatifs. Mais c'est pas des gens connus, quoi. Leur nom vous dirait rien, quoi. les gens qui étaient plus connus, comme Xavier Langlade, comme etc., étaient eux-mêmes oui. dans les organisations politiques d'extrême gauche.
Bah, par exemple, j'ai interviewé Anne Kerrien, elle était dans cette base ou...
Oui, elle est, à mon avis, plus significative de cette deuxième attitude.
Oui. Parce que pour l'inspiration, vous avez lu Marx, lu et rejeté Marx, vous étiez plutôt situationniste, d'où est-ce que vous avez eu vos idées? C'était peut-être spontané, mais j'en sais rien.
Non, mais notamment à travers la GEC, ça avait été une vraie ouverture à des traditions sociales, politiques et intellectuelles. On était aussi très en rapport avec le mouvement de la jeunesse communiste qui était important à l'époque. Là, je parle du côté du lycée. Moi, j'ai été très vite en rapport avec une pluralité de traditions transformatrices. Ma sensibilité personnelle était plutôt du côté de la tradition libertaire. Mais d'une tradition libertaire non violente et qui intègre en même temps des éléments de ce que j'avais vu chez André Gortz, qui m'avait beaucoup intéressé, ce qu'il appelait le réformisme radical.
Ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, c'était amusant parce que dans les assemblées du 22 mars, moi, je défendais cette posture du réformisme radical. Alors, ce qui est évidemment était culturellement inacceptable pour beaucoup de gens qui trouvaient que c'était trop droitier par rapport à la position révolutionnaire. Ce qui était amusant, c'était régulièrement Cohn-Bendit qui me défendait, pas sur le fond,
oui.
mais sur le droit à la parole.
D'accord.
et je me suis rendu compte après, parce que cette vision du réformisme radical... elle est restée à peu près constante ensuite chez moi, que la plupart des gens que j'avais à l'époque à ma gauche, je les retrouvais à ma droite, parce que moi, une des choses qui m'a assez vite marqué, j'étais très intéressé par l'aspect critique, économique et social du marxisme,
oui.
mais j'étais vite frappé, alors au début c'était une intuition, puis après c'est devenu plutôt... l'objet d'un travail plus théorique, par le fait qu'il y avait une insuffisance anthropologique dans le marxisme qui était à la racine de son insuffisance sur la question démocratique et sur la théorie politique. Et de ce point de vue-là, j'étais assez proche de ce que disait Emmanuel Mounier, de la tradition du personnalisme, qui était que il y avait à la fois une nécessité de dépasser le marxisme dans sa faiblesse anthropologique, mais que pour mériter de dépasser le marxisme, il fallait l'accompagner le plus loin possible dans les enjeux de critique sociale et de justice sociale. Et le réformisme radical, pour moi, exprimait bien cette situation, parce que je repérais derrière la posture révolutionnaire beaucoup de postures autoritaires et d'une aspiration profonde à un retour à l'ordre, c'est-à-dire la définition physique de la révolution. En fait, je la retrouvais aussi sur le plan politique. Comme il y avait une vision réductrice, simplificatrice, il y avait aussi dans l'espérance de remettre une société sur ses pieds,
oui.
quelque chose qui finalement était très conservateur, très dans une logique de retour à l'ordre. Et de ce point de vue-là, pour moi, la notion de réformisme radical, il avait l'avantage justement d'aller plus à la racine des questions, et notamment de la difficulté des collectivités humaines à à réussir le vivre ensemble, que c'était pas simplement lié à des verrous à faire sauter, que ce soit l'exploitation ou que ce soit l'État bourgeois ou que ce soit plus tard le patriarcat, fait que y avait une difficulté intrinsèque de l'humanité dans son rapport à elle-même, oui. qui était déjà présente. Alors ça, c'est des choses que j'ai théorisées dans les années ultérieures, mais je me souviens que c'était déjà présent beaucoup à l'état intuitif et dans ma résistance à ce que je trouvais simplificateur et réducteur dans les postures d'extrême gauche, par exemple, il y avait beaucoup d'éléments de cette nature. Et par exemple, l'un des livres qui m'a le plus marqué, enfin, il y a deux livres qui m'avaient marqué à l'époque. L'un, c'est La Brèche, écrit à la fois par Morin Castoriadis, et puis, je me souviens plus, le troisième.
Non,
c'est
oui.
Par Le Fort. Et l'autre, c'est La prise de parole de Michel de Certeau.
Ah oui.
Et où Michel de Certeau évoquait comme hypothèse le fait que il y avait un tel inédit de 68 qui correspondait à aucun cas de référence théorique connue, et que du coup, cet inédit avait laissé la place à ce qu'il appelait une récupération par des langages antérieurs.
Oui.
Et notamment par les langages politiques intérieurs des visions de révolution du tiers-monde qui évidemment ne collaient pas du tout par rapport à l'inédit de 68, que ce soit le maoïsme ou le trotskisme, l'un figé sur la révolution chinoise maoïste et l'autre sur ce qu'aurait été la révolution russe si elle avait été trotskiste plutôt que stalinienne. Dans les deux cas, ça me paraissait complètement décalé par rapport à la réalité. Et d'une certaine façon, et La Brèche et la prise de parole de Michel de Certeau ont mis des concepts et ont organisé ce qui, pour moi, était présent à l'état intuitif, au même titre que ce troisième livre très important qui avait été pour moi à l'époque, Le socialisme difficile d'André Gorst et oui. L'hypothèse du réformisme radical.
Et vous avez connu ces gens ou c'est juste les lectures?
Par la suite, j'ai connu Morin, j'ai connu Castoriadis, j'ai connu Le Fort. Michel de Certeau, je l'ai moins connu. Je l'ai écouté, je l'ai vu, j'ai dû parler une ou deux fois avec lui, mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment connu. Mais je l'ai rencontré, oui.
C'était un jésuite,
jésuite. Oui, lui, il était jésuite, oui.
Ouais. Ouais. Et quand vous dites la faiblesse anthropologique du marxisme, vous voulez dire que c'était pas très, très bien théorisé sur le plan des rapports humains, c'est ça?
Ou oui, c'est ça, c'est que là... autant la critique économique et la critique sociale étaient très fortes, mais l'idée que justement une fois que le prolétariat qui n'avait que ses chaînes à perdre se serait libéré lui-même, l'hypothèse que du coup on pouvait aller vers une forme d'humanité réconciliée et que c'est pour ça que la destruction de l'État bourgeois ouvrait la voie à son dépérissement et à une démocratie prolétarienne qui ouais. serait infiniment plus forte que la démocratie bourgeoise, et que du coup une dictature du prolétariat pendant une faible période de transition n'était pas dangereuse. Tous ces éléments-là me paraissait, alors là, très très tôt, relever d'une insuffisance anthropologique profonde qui débouchait sur une insuffisance dans la prise en compte de l'autonomie de la question politique et en particulier de la question démocratique, quoi. Alors, d'accord, évidemment, c'était plus complexe chez Marx que chez Lénine, et à l'époque, la lecture de Marx se faisait aussi beaucoup à travers la lecture de Lénine et de l'État et la Révolution. Oui. Mais moi, je me souviens d'avoir beaucoup débattu, commenté et critiqué justement le caractère totalement idéaliste de l'État et la Révolution, où Lénine expliquant ce que c'était que le communisme, expliquant pourquoi il n'y aurait plus de contradictions sociales dans le communisme et que les problèmes seraient résolus aussi simplement, aussi facilement, disait-il, que si des gens s'en prennent à une vieille femme, l'Assemblée autour va immédiatement empêcher ces jeunes de nuire, comme si justement, une fois sautés les verrous de l'exploitation, oui, de la domination de l'État bourgeois, les choses allaient être simples. Et là, probablement, parce que ma tradition chrétienne d'une part, et puis l'ouverture à toutes les sciences humaines, et notamment la psychanalyse, la psychologie évidemment que j'avais fait dans mon certificat de philosophie, m'amenait à considérer que la question humaine était beaucoup plus complexe, et que se libérer de ses chaînes, oui, c'était nécessaire et légitime, mais les mécanismes de servitude volontaire et la difficulté du vivre ensemble, au sens large et radical du terme, la question de l'amour était beaucoup plus complexe que ce que les approches de tradition marxiste croyaient.
Alors, vous évoquez là vous évoquez les questions de l'amour, c'est-à-dire que on parle assez souvent d'un radicalisme de politique, un radicalisme politique et un radicalisme de style de vie dans ces années 60. Est-ce que vous avez eu quelles étaient vos idées sur une sorte de révolution culturelle ou libération sexuelle à l'époque?
Ben, y avait d'une part l'importance des enjeux culturels, mode de vie et libération sexuelle, les textes de William Reich, les textes de Marcuse, correspondaient à mettaient des mots sur un bouillonnement de vie dans une société qui était par ailleurs restait très bloqué, en particulier restait très bloqué en matière de mœurs. Oui. Et ça, je le vivais très, très positivement, mais en même temps, j'étais assez vite frappé du fait que, y compris cette libération sexuelle, elle était au fond relativement superficielle, et justement, elle reportait souvent des logiques de domination derrière son apparente radicalité. Par exemple, moi j'étais très, très frappé du nombre d'hommes qui utilisaient l'idéologie révolutionnaire pour convaincre des jeunes femmes d'avoir des rapports sexuels avec eux. Au nom du fait que si elle le refusait, c'était vraiment le signe de leur idéologie petite bourgeoise. Donc ça me frappait parce que, oui, alors en plus, dans certains groupes d'extrême gauche, ça prenait carrément des formes caricaturales extrêmes. Un groupe comme la JS, l'émanation de l'OCI, eux, leur double spécialité, c'était la défenestration de leurs adversaires politiques, et c'était le droit de cuissage sur les filles qui rentraient dans les groupes. Donc, j'étais très sensible à l'aspect positif de la question des mœurs, y compris à l'aspect positif de la libération sexuelle, parce que, oui, je trouvais que c'était une chape de plomb très importante qui là commençait à sauter, mais très très vite j'ai eu le le sentiment qu'il fallait travailler davantage la complexité de la question amoureuse sous toutes ses formes.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, moi, j'ai été ensuite, j'ai vécu en communauté pendant 10 ans, j'étais complètement dans cette filiation-là, mais je me souviens qu'une des choses qu'on avait fait avant de vivre en communauté, c'était pendant 6 mois de lire, d'échanger sur toutes les expériences de communauté qu'on connaissait aussi bien en France qu'à l'étranger, pour repérer aussi les principales erreurs à pas commettre. Et dans ces erreurs à pas commettre, il y avait les éléments d'idéalisme sur les questions amoureuses et sexuelles, ou sur la question des enfants, de croire que les enfants pouvaient appartenir à la communauté et que les liens de parenté pouvaient s'estomper facilement, ou que tout le monde pouvait faire l'amour avec tout le monde et que c'était très simple, ça ne posait aucun problème. Ça, c'est des choses qu'on avait identifiées comme n'allant pas de soi. Alors, on n'en tirait pas pour autant des conclusions conservatrices, mais disons qu'on en tirait des conclusions en termes d'épaisseur de la difficulté de la question amoureuse et sexuelle, qui ne se résumait pas au fait qu'il suffisait de se libérer des entraves d'une société bourgeoise, quoi. Et j'ai vu beaucoup de drames personnels de personnes qui avaient cru ça et qui se retrouvaient assez profondément blessés par la découverte que c'était plus compliqué.
Et quand vous dites « on », vous avez repensé ces questions, c'était avec un groupe d'étudiants, un groupe d'amis
Oui, j'étais dans un groupe d'amis qui se réunissait. Alors, j'avais mes engagements sociaux, donc j'ai eu un engagement à l'AGEC assez jusque dans les années 70, puisque j'étais encore à l'équipe nationale de l'AGEC. J'avais des engagements politiques, puisque j'étais rentré au Parti Socialiste Unifié, et assez rapidement j'ai pris des responsabilités, notamment dans le journal du PSU de l'époque qui s'appelait Tribune Socialiste.
Oui.
J'avais un pseudonyme qui était Gérard Ferrand à l'époque, et qui était justement comme tout le monde avait des pseudonymes à l'époque, c'était un grand jeu, mais ce pseudonyme, au début, il était collectif. C'est-à-dire, il y avait un ami qui s'appelait Gérard Doiret, un autre qui s'appelait Alexis Ferrand, dans notre groupe d'amis étudiants. Et donc, indépendamment de ces engagements sociaux ou politiques, on avait un groupe d'amis, d'une dizaine d'amis, qui se réunissaient très régulièrement et qui notamment faisait deux choses. D'une part, un échange général sur la situation, l'actualité, etc. D'autre part, un échange à partir de fiches de lecture.
Oui.
À ce moment-là, c'était assez archaïque, mais on utilisait des feuilles de carbone qui faisaient que chacun pouvait faire une fiche de lecture pour l'ensemble du groupe, ce qui faisait qu'à la fin de l'année, on avait un paquet assez conséquent de fiches de lecture. Et ça nous aidait bien, parce que, par exemple, tous les grands débats théoriques de l'époque, le structuralisme, Althusser, Lacan, Foucault, etc., indépendamment de nos propres études, mais on en discutait beaucoup dans ce groupe. Et c'est aussi beaucoup dans ce groupe que les éléments de repérage de ce qui nous paraissait à la fois intéressant et en même temps limité ou superficiel dans les traditions dominantes de l'époque, et en particulier dans la tradition marxiste ou dans la tradition libertaire aussi, nous apparaissait.
Et c'était juste après 68 tout ça, ou pendant?
Oui, ça c'est un groupe qui a existé de 68 à... Il a duré assez longtemps, hein, puisque après, quand on était en communauté à partir de 73, c'est un groupe qui a duré pendant encore 2 ans à peu près, donc je dirais c'est Il a duré au moins 6 ans.
D'accord. Juste pour revenir à la perspective catholique, donc vous étiez au GLC.
On ne parlait jamais à la GEC de perspective catholique.
Du christianisme.
Pour nous, c'était le christianisme.
D'accord.
L'identification. Non, mais c'est pas la bonne reproche que je vous fais, mais c'est une précision parce que je suis très frappé du fait que. Dans les périodes actuelles qui sont marquées par des régressions identitaires, c'est très frappant de voir qu'il y a une identification catholique qui n'existait pas à l'époque. En tout cas, qui n'existait pas dans les mouvements dits d'action catholique, mais qui se définissaient par le christianisme et pas par
le
catholicisme.
Oui, mais le C, c'est pour catholique.
Chrétien.
Oui,
et on y tenait, oui.
Parce que il y avait quand même des crises à l'intérieur de la GEC dans les années, enfin c'était 55, 65.
Oui.
Vous avez vécu la dernière crise.
Alors je l'ai vécu indirectement parce que à l'époque j'étais encore relativement jeune, même si c'était le moment où je passais mon bac, mais je commençais à avoir des responsabilités au niveau fédéral, mais pas du tout au niveau national.
Oui.
Donc je me sentais plutôt en sympathie avec l'équipe nationale dans son conflit avec Monseigneur Veuillot, qui était l'archevêque de Paris de l'époque, mais je n'étais pas directement impliqué. Mais par contre, assez rapidement, et notamment à partir de la région parisienne, on a contesté les orientations qui étaient celles de la nouvelle équipe nationale mise en place par l'Épiscopat. Et dès le Conseil national de Limoges, de nouveau reconstituer une équipe nationale qui était plus en ligne avec la perspective de l'engagement social qui avait été celui de la GEC exprimé par les équipes de 65. Même si nous, on était très ouverts et intéressés par le marxisme, mais on n'avait pas l'espèce de fascination ou de sentiment en dehors du marxisme, il n'y avait pas de cadre théorique possible d'une pensée de la société. De ce point de vue-là, on était plus...
Et vous avez eu des copains protestants ?
Oui.
Par exemple, autour du Sommer, des...
Oui.
Donc c'était vraiment chrétien, pas catholique.
Alors, entendons-nous, la GEC était pour l'essentiel composée de catholiques, mais de catholiques qui ne se définissaient pas par rapport à la catholicité. Ils étaient spontanément dans une vision écuménique. Il faut se souvenir que c'est une période où tous ces mouvements préparent et sont ensuite nourris par le Concile.
Oui.
Le rôle du Concile est un rôle très important. La personne de Jean XXIII, Pacem in Terris, Mater et Magistra jouent un très grand rôle dans cette dynamique-là.
Et vous avez été influencé, vous avez parlé de Michel de Certeau, il y avait quand même aussi des dominicains assez radicaux.
Oui, par exemple le père Chenu.
Oui.
L'ensemble des pères du Concile, mais certainement le père Chenu, c'était un de ceux qui nous a le plus influencé.
D'accord.
D'ailleurs, moi, ensuite, dans mon mémoire de philo, j'ai travaillé sur l'actualité du thomisme.
Ah oui.
Il y avait Maritain aussi qui nous influençait, Gabriel Marcel. Là, je parle des auteurs chrétiens.
Oui.
Hein? Ah, et puis par ailleurs, il y avait évidemment toutes les courants liés à la psychanalyse, au freudo-marxisme, Marcuse, Reich.
Oui, d'accord. Donc pour arriver aux événements de 68, Donc, comment ça s'est passé pour vous à Nanterre et à Paris à ce moment?
D'abord, étant à la cité universitaire, j'ai été dans le démarrage du mouvement avant même le 22 mars,
Oui,
puisque
d'accord.
ça a démarré d'abord à la cité universitaire, et parce que c'est parce qu'il y avait cette ébullition, cette mobilisation du côté de la cité universitaire que les conditions ont été aussi réunies
Oui.
le 22 mars, lorsque on a appris l'arrestation de Xavier Langlade, pour que se propage comme une traînée de poudre l'idée d'aller occuper le bâtiment administratif. Et donc justement, moi j'ai été tout de suite sensible au fait que 68, c'était d'abord des questions portant sur les modes de vie,
Oui.
Avant même de porter sur les sujets politiques plus directs, quoi. Mais les deux aspects, c'est-à-dire, moi, j'étais pas dans l'extrême gauche et je me sentais pas représenté par l'extrême gauche pour les raisons que je vous évoquais, mais par contre, j'étais très sensible aux questions internationales. Et de ce
Oui.
point de vue-là, la GIEC m'y avait aussi aidé, parce qu'à travers la GIEC internationale, il y avait pas mal de réseaux. Donc, la question du Vietnam et donc la simultanéité de la question, on dirait aujourd'hui civilisationnelle, de mode de développement et de mode de vie d'une part, et de la question planétaire d'autre
Oui.
part, ça c'est quelque chose que j'ai ressenti à travers ce double moment qui a été d'une part la question de l'ouverture des bâtiments des filles, parce qu'il y avait cette espèce de cloisonnement absurde qui faisait que les jeunes hommes avaient le droit d'aller chez les jeunes filles, enfin les jeunes filles avaient le droit de venir chez les jeunes hommes, mais pas l'inverse, donc cette
Oui.
espèce d'hypocrisie et d'expression d'une société qui était culturellement bloquée. Et puis, à travers la question du Vietnam, mais aussi on était déjà très sensible aux questions d'Europe de l'Est, hein, et de la
Oui.
critique du fait totalitaire et du communisme bureaucratique. Donc dans ces semaines-là, qui
Oui.
sont les semaines de mars, avant même mai, moi je sais que je suis sensible à ce double aspect, même si là encore, j'en suis plus sensible intuitivement que en l'exprimant de façon plus théorique, comme je le ferai ultérieurement.
Et puis vous êtes venu à Paris à...
Ben, je suis venu à Paris comme tout le monde, enfin. J'y suis venu après pour les études Sciences Po, mais à l'époque du mouvement, j'y suis venu après parce que la fermeture de la fac de Nanterre nous a propulsés à la
Ouais.
Sorbonne, comme tous les étudiants de Nanterre qui étaient engagés dans le mouvement, quoi.
Il y avait à l'époque des centres, enfin j'évite le mot catholique, mais il y avait des endroits comme le centre Jean Saint-Yves, le centre Saint-Guillaume,
Oui, le centre Richelieu, etc.
qui étaient plutôt chrétiens, aussi bien que la Sorbonne. Vous avez circulé un peu, enfin dans quel milieu en mai 68?
Ah ben, moi, j'étais plus souvent dans les milieux larges, enfin de type 22 mars, que les milieux chrétiens. Les milieux
Oui.
chrétiens, j'y étais plus, mais à travers la GIEC. Parce que là, du coup, la GIEC a été très présente en 68. Moi, j'avais rédigé un texte qui a été ensuite repris par l'équipe nationale. J'étais dans le groupe de jeunes qui avait été créé par l'archevêque de Paris d'époque, Monseigneur Marty,
Oui.
qui voulait essayer de comprendre les mouvements, mais j'étais assez en désaccord avec, par exemple, le père Lustiger, qui était l'aumônier du centre Richelieu, et qui consentait très réticent à l'égard de 68 et dans une perspective qui était déjà beaucoup plus traditionnelle. Donc il y avait un désaccord assez fort entre l'approche de mouvements d'action catholique comme la GEC, mais c'était le cas aussi du côté de la JOC ou de ce qui deviendra après le mouvement rural de la jeunesse chrétienne, et puis le centre Richelieu sous l'influence...
Parce que le centre Richelieu, c'était quoi exactement ?
C'était vraiment le centre des étudiants chrétiens, l'aumônerie des étudiants chrétiens sur les facultés de lettres. Saint-Guillaume, c'était plutôt Sciences Po, Saint-Yves, c'était plutôt du côté du droit.
Oui, d'accord. Et vous avez...
Il y avait déjà la personnalité très forte du père Lustiger, qui un peu la référence.
Le texte que vous mentionnez, c'est « Nous refusons d'être sages ».
Oui, c'est ça. Oui.
Que j'ai pas lu, mais est-ce que vous pouvez... c'est pas mal comme titre, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
C'était justement de dire que le mouvement qui se passait n'était pas un mouvement superficiel, un mouvement, c'était un mouvement en profondeur, et qu'il ne fallait pas attendre de mouvements comme la jeunesse étudiante chrétienne qu'elle se mette en quelque sorte en opposition avec ce mouvement en profondeur, et que nous aussi... Justement, on n'était pas les bons élèves, on n'était pas les gentils élèves, qu'on faisait aussi partie du mouvement, même si à l'intérieur du mouvement, on exprimait des logiques de transformation en profondeur, de la logique de conflit non violent, et puis des perspectives plus larges que les perspectives des mouvements de type d'extrême gauche, quoi. Mais en quelque sorte de l'intérieur de ces mouvements-là, quoi.
Mais c'est un texte parce que ça a paru dans Message, c'est un...
Oui, Message, c'était le journal national de la GEC, mais qui était un journal qui devait être hebdomadaire ou mensuel, et là on en avait tiré un numéro spécial très important qu'on avait largement distribué, notamment à la sortie des églises.
D'accord. Donc c'était surtout pour pour votre audience chrétienne.
Oui, là c'était vraiment directement tourné vers les milieux chrétiens.
Alors, mai-juin 68, ça a terminé comment pour vous ?
Ben, il y a le grand reflux politique, mais qui à la fois mes amis et moi ne nous touche pas exagérément, parce que le sentiment que la fécondité essentielle de 68 n'était pas sur le plan politique traditionnel, mais plutôt justement sur la question culturelle, civilisationnelle, internationale, et ça nous paraissait un élément fondamental qui resterait indépendamment du reflux politique de 68. Même si moi j'ai beaucoup espéré à un moment donné que Pierre Mendès-France puisse jouer un rôle important, parce qu'on était aussi critique à l'égard du Parti communiste qu'à l'égard de François Mitterrand, de la Fédération de la gauche socialiste. Donc il y avait guère que Pierre Mendès-France qui nous paraissait pouvoir assumer politiquement les changements. Et donc à partir du moment où on s'est rendu compte que Pierre Mendès-France ne pouvait pas, ou en partie ne voulait pas, jouer ce rôle, l'échec de la gauche traditionnelle n'était pas pour nous quelque chose de dramatique, quoi. Et
d'accord.
Par contre, on s'est plus investi les uns et les autres à travers la CFDT et à travers le PSU dans ce qu'on a appelé le courant autogestionnaire, parce que le courant autogestionnaire, il exprimait bien le lien entre les questions de la société civile, les questions démocratiques et les questions culturelles.
Il y avait ce grand rassemblement à Charletti.
Oui.
Vous étiez
oui.
là.
Oui. Oui.
Donc
oui,
vous
oui.
avez espéré un gouvernement Mendès-France-Mitterrand qui est arrivé.
On a surtout espéré que Mendès-France allait prendre une grande initiative et on était assez déçus de pas le voir puisqu'il est resté silencieux à Charletti.
Oui.
Michel Rocard, qui en était très proche, nous a dit « Mendès-France ne veut pas y aller ». Et après qu'on a vu la déclaration de François Mitterrand, on a eu un peu l'impression que les carottes étaient cuites sur le plan strictement politique. Quoi.
D'accord. Donc vous avez commencé à vous investir dans une nouvelle forme de politique, une nouvelle forme de syndicalisme. C'est la première chose que vous faites allusion à la CFTT.
Oui, oui.
C'était aussi votre milieu?
Oui, oui, tout à fait, oui, oui.
Par quel biais, là?
D'une part, assez rapidement, moi j'étais élève-professeur, que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque l'Institut l'IPES. Qu'est-ce que ça voulait dire, IPES? Enfin, c'était un système d'élèves-professeurs.
Sur des cours normales.
Oui, c'est ça, mais c'était. Oui, c'était un peu les IUFM avant la lettre, quoi. Mais pour le professorat du secondaire, hein, pas pour le primaire comme les écoles normales.
D'accord.
Et donc, naturellement, je me suis inscrit à la CFDT, au syndicat enseignant de la CFDT qui était le SGEN. Et puis évidemment, pour des gens qui avaient eu une tradition chrétienne et une tradition chrétienne engagée du côté de la justice sociale, la CFDT était un débouché naturel. Et puis c'est là que la jonction avec les traditions qui nous paraissaient les plus intéressantes dans le mouvement, qui étaient les traditions héritées du socialisme utopique et du socialisme libertaire, c'était aussi là qu'elles étaient les plus présentes à travers la CFDT. L'approche autogestionnaire rassemblait en quelque sorte tout ça.
Vous étiez devenu élève professeur en quelle année? C'était après Sciences Po?
C'est après Sciences Po, donc ça doit être... En 72 la première fois où je suis nommé professeur. C'est-à-dire je fais d'abord un stage à l'école normale de Garches pendant à peu près un an. Je fais d'abord une année de ce qu'on appelait le CPR, qui était les stages pratiques quand on avait passé le CAPES théorique. Puis ensuite je suis nommé à l'école normale de Douai.
En tant que
là, c'était comme c'est dans les écoles normales, c'était pas des professeurs de philosophie stricto sensu, c'était on appelait ça la psychopédagogie, c'est-à-dire on devait travailler davantage sur les grands courants pédagogiques, Freinet, Montessori, De Croly, etc.
Oui.
Mais ça m'intéressait beaucoup de faire ça aussi. Et puis après, je vais faire un stage d'une année à l'école normale de Garches. Et ensuite, Michel Rocard me demandant de prendre la direction du journal de Tribune Socialiste,
oui.
Je vais demander une mise en congé pour convenance personnelle de l'éducation nationale pour être là vraiment plus investi sur le plan politique à travers le PSU
Donc c'est vers quelle année ça, la tribune socialiste?
C'est de 72 à 74.
D'accord.
Où je suis directeur du journal pendant 2 ans. Et là, j'en suis directeur. Et là, c'est vraiment une activité à plein temps. Donc, y compris, je deviens salarié des éditions Syros qui éditent le journal.
Et donc, vous commencez à... Vous êtes dans un trajectoire, dans un parcours qui explique, je crois, je n'ai pas lu vos derniers écrits, mais vous êtes porté sur la question de l'autodestruction de la planète, de l'humanité, sur de nouvelles formes de démocratie, sur de nouvelles formes de citoyenneté. Toutes ces idées-là, ils datent de cette époque-là.
Oui. Enfin, elles naissent à travers ce que je fais au lycée, à travers des mouvements comme la GEC. Elles s'ouvrent et elles s'approfondissent dans la période 68 et post-68, notamment à travers ce courant autogestionnaire qui était très intéressant parce que justement il y avait à la fois une composante sociale, syndicale, ouvrière très importante à travers la CFDT, une composante politique, mais d'un politique renouvelé qui était plus exprimé justement par la posture du PSU, et puis une composante intellectuelle qui était très, très importante. Les sociologues comme Alain Touraine, Castoriadis, Morin, Lefort, enfin tous les intellectuels de ce qu'on a appelé après la gauche antitotalitaire étaient présents. Et donc ce trépied-là, mouvement social, mouvement démocratique et mouvement intellectuel, ça m'a beaucoup marqué parce que je suis toujours... trouvais que c'était dans ces phases-là qu'il y avait un dynamisme très grand, alors que quand il y a un repli de chacun dans sa sphère, ça donne une fécondité beaucoup moins importante.
Et c'est pendant que vous étiez à la tribune socialiste qu'il y avait la grève à l'IP.
Oui, la grève de l'IP, la marche sur Besançon, oui, ça j'étais directement
impliqué. C'était un peu, ça a pu confirmer vos idées, cette grève et cette occupation.
Oui, c'était
une grève autogestionnaire,
une grève autogestionnaire. D'autant que justement, il y avait en même temps le lien avec l'approche du réformisme radical, c'est-à-dire que par exemple, le PSU, il était doublement engagé du côté des ouvriers de l'IP, de la grève et de la lutte autogestionnaire, mais il était aussi directement engagé pour trouver des solutions économiques. C'est par l'intermédiaire du PSU que Claude Neugevender d'abord, José Bilguin... ont été trouvés, enfin, y compris on avait lancé toute une opération parce que la Société Générale avait refusé de financer l'IP et on avait lancé une campagne intitulée « La Société Générale refuse son argent à l'IP, refusez votre argent à la Société Générale ». Alors, on était conscient que c'était pas avec le journal Tribune Socialiste qu'on allait faire des miracles, mais on a été contacté un jour, Bernard Langlois et moi, par un cadre supérieur de la Société Générale, qui nous a expliqué à quel point la direction de la Société Générale était inquiète de cette campagne et était prête à négocier. Parce que eux, ils étaient persuadés que derrière le PSU, c'était en fait toute la CFDT.
Oui.
Et la CFDT avait ses comptes à la Société Générale. Donc,
d'accord.
Non seulement directement, mais évidemment indirectement, vu la puissance syndicale de la CFDT sans commune mesure avec le PSU. Donc, pensant que c'était en fait une campagne téléguidée par la CFDT, et ils avaient pris peur et ils étaient prêts à négocier. Donc,
ils ont fait un prêt ?
Oui, ils ont participé au tour de table du financement.
Ah, ouais, d'accord. Et il était question à un moment que Piaget soit candidat à PSU à la présidence de la République.
Oui,
qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'étais très ambivalent parce que d'un côté, j'avais beaucoup d'estime et d'affection pour Pierre Piaget, pour Charles Piaget, qui était quelqu'un de très grande qualité. Mais en même temps, on voyait bien que c'était une candidature de témoignage et que la question qui se trouvait de plus en plus posée, c'était le fait d'aller renouveler en profondeur l'ensemble de la gauche socialiste et de ne pas rester simplement dans l'espace du seul PSU sur le plan politique. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais quand même plutôt de l'avis de Michel Rocard de préparer un rassemblement plus large qui s'est réalisé au moment des assises du socialisme avec le nouveau parti socialiste d'Épinay, plutôt que de rester complètement dans un espace sympathique mais marginal.
D'accord. Et pour revenir à cette communauté, vous avez vécu en communauté pendant ces années-là?
Oui.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ça? Parce que on parle aussi à l'église des communautés de base.
Ah oui, non, là, c'était vraiment les communautés de vie telles qu'elles se sont créées dans l'après 68. C'était pas le mouvement des communautés de base chrétiens. Mais même s'il y avait des correspondances, hein, c'est pas par hasard si le mot communauté était utilisé dans les deux sens. Mais là, c'était vraiment l'application concrète de changer la vie, hein, et donc de vivre d'autres rapports sociaux qui étaient marqués par une plus grande égalité, une plus grande ouverture, une plus grande autonomie de chacun à l'intérieur des familles et des couples, une plus grande ouverture sur la société aussi. Enfin, c'est ne pas être dans une coupure totale entre espace privé et espace public. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, on a passé 6 mois à échanger, à discuter, parce qu'on était frappé du fait que pas mal de communautés se cassaient la figure au bout de quelques mois, parce qu'elles avaient été idéalistes, soit en étant ouvertes tous azimuts sur l'extérieur, alors qu'ils disaient qu'il n'y avait pratiquement plus de vie possible parce qu'il y avait des réunions politiques pratiquement tous les soirs, ou le fait que si on était ouvert au comité Vietnam national, ça créait un conflit avec le comité Vietnam de base, donc il fallait aussi ouvrir la maison au comité Vietnam de base. Donc il y avait cette espèce d'envahissement par la sphère extérieure, et puis à l'intérieur il y avait cet idéalisme sur la question des enfants ou sur la question amoureuse, ou beaucoup, ça c'était une des choses qu'on avait beaucoup repéré, d'idéalisme sur la question des tâches domestiques. Beaucoup de communautés se sont effondrées sur elles-mêmes parce que, ayant fait confiance à la spontanéité des uns et des autres, n'ayant pas mis de règles du jeu. Donc nous, on avait tiré des leçons de tout ça et on avait instauré un certain nombre de règles du jeu qui n'étaient pas très contraignantes, mais qui étaient quand même assez précises. Par exemple, chaque semaine, on était en charge et des courses et de la cuisine. Moi, ça faisait beaucoup rire mes copains du bureau national du PSU, Tribune Socialiste, parce qu'on avait toujours des temps de réunion qui se terminaient très tard, mais ils savaient que la semaine où j'étais de course et de cuisine, il fallait pas me mettre de réunion parce que c'était sacré, il fallait que je sois parti au plus tard à 19h. On avait fait en sorte que chacun ait sa chambre, c'est-à-dire on reconnaissait l'existence des couples, ce qui n'était pas le cas des communautés, mais on renforçait l'autonomie de chacun. Par exemple, je me souviens, notre thèse, c'était de dire si on dort ensemble, c'est par choix, et c'est pas parce qu'il y a une seule chambre pour le couple.
D'accord. Bon.
Mais du coup, le fait d'avoir travaillé un peu sur ces causes d'échec et travaillé sur un minimum de règles du jeu, ça nous a permis d'abord de rester plus longtemps. On oui. est resté d'abord 5 ans avec le même groupe et d'y avoir suffisamment pris de plaisir pour encore 5 autres années le faire avec d'autres groupes. En tout, moi, je suis resté pendant une dizaine d'années.
À partir de 73, vous avez dit.
Oui, c'est ça. Donc,
un groupe pendant 5 ans et puis un autre groupe.
Oui, ça. Mais on a dû démarrer en 72, peut-être. Donc ça a dû être une période de type 72-82, quoi, à peu près. Mm. Ou 72-81, c'était peut-être 9 ans, mais ça a été à peu près ça, quoi.
Et. Quand sont arrivés les enfants, vous avez dû changer les règles ou évoluer
Non, on a démarré, on avait déjà notre fille avec ma femme, dont j'ai été divorcé plus récemment, mais on avait déjà une petite fille à l'époque. Et les amis avec qui on était avaient déjà leurs enfants. Les enfants ne sont pas nés dans la communauté, ils étaient déjà présents. D'accord. Mais c'était une petite communauté. Hein. Le groupe qui avait réfléchi pendant 6 mois était un groupe assez large, mais le groupe qui a concrétisé était plus restreint justement parce que le travail de préparation avait fait aussi apparaître que... Il n'y avait pas forcément les mêmes attentes pour tout le monde.
Donc vous étiez combien à peu près ?
Oh, donc le groupe lui-même, il était de 7. Donc ouais. il y avait 4 adultes et 3 enfants.
Ouais, d'accord.
Mais c'était une vraie transformation, quoi. Moi, je sais qu'on avait vécu avec ma femme, on avait vécu pendant un an sous une forme classique, et on s'était vite rendu compte qu'on se sentait dans un état d'enfermement. Et pour nous, la communauté, c'était vraiment un bon point d'équilibre.
D'accord. Et quand vous dites 4 adultes, c'est 2 couples ou c'était...
Mais au départ, c'était 2 personnes distinctes, enfin une femme avec ses 2 enfants,
oui.
et puis une autre personne, mais qui sont devenues un couple à cette occasion. Quoi.
D'accord.
Mais avec le même principe que chacun avait sa chambre. Que
oui, d'accord.
C'est pas comme s'il y avait eu 2 familles, hein, d'autant que les enfants étaient de Christine, n'étaient pas de Gilles. Enfin, il y avait une fluidité
oui.
Qui était très, très importante dans ce groupe.
D'accord. Alors, 2 questions de plus. Alors, sur votre trajectoire, d'abord, vous avez travaillé à la Tribune socialiste jusqu'à 1974.
Oui, puis après, donc, il y a eu les assises du socialisme.
Oui.
Et donc, toute une partie du PSU a rejoint le nouveau parti socialiste.
Oui.
Et j'ai eu un temps de chômage à ce moment-là. Mais assez rapidement, on a créé une revue qui était la revue Faire, qui était un peu la revue du courant autogestionnaire et qui croisait les aspirations de la CFDT, les approches intellectuelles, l'expérimentation sociale et puis qui représentait la partie la plus autogestionnaire du Parti Socialiste.
D'accord.
Et la revue Faire, elle a existé jusque... Alors la revue Faire, elle a dû être créée en 75, et elle a existé jusque en 81, hein, à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Elle s'est arrêtée à ce moment-là parce que Gilles Martinet, entre-temps, qui était le directeur, moi j'étais le rédacteur en chef, est devenu ambassadeur de France en Italie, et elle l'a repris sous une autre forme et un autre titre qui était la revue Intervention, mais qui était la poursuite, ça a été tout ce qu'on a appelé la deuxième gauche.
Oui. Donc vous avez eu une carrière de journaliste, plus ou moins ?
Oui, mais c'était à la fois du journalisme, et en même temps, c'était beaucoup de la recherche, du travail théorique, parce que c'était des revues qui étaient à la jonction de l'univers citoyen et en même temps de l'univers théorique. Et c'est justement, moi, c'était un aller-retour qui me plaisait bien.
Oui.
Et que j'ai retrouvé une troisième fois quand j'ai pris une disponibilité de la Cour des comptes pour être rédacteur en chef de la revue transversale Sciences Culture.
Ben d'accord.
Donc que ce soit à travers Faire, Intervention ou transversale Sciences Culture, dans les trois cas, c'était des revues qui étaient à la fois plurielles et pluridisciplinaires.
D'accord. Et quand vous êtes entré à la Cour des comptes, à la Cour des comptes, et puis je ne connais pas cette institution, mais je me demande comment vous arrivez à développer, à faire suivre vos idées assez radicales dans une institution qui, de l'extérieur, paraît assez conservatrice.
Oui, alors d'abord, moi j'y arrive dans des conditions bien particulières parce que dans le cadre de la revue Intervention et avant qu'elle s'arrête, parce qu'il y a eu un moment où on savait qu'elle n'avait plus les moyens économiques de continuer, on avait lancé une grande enquête sur ce qu'on avait appelé qu'est-ce que la gauche a appris son expérience du pouvoir.
Oui. Hein,
puisque on était en 85, on se rendait compte que les élections législatives allaient très probablement se terminer par une défaite de la gauche. Et notre souci à Intervention, c'était de dire, ben, finalement, il y a eu depuis 81 toute une expérience concrète de la gauche française aux prises avec la question de l'État, et plutôt que d'être dans une espèce de schizophrénie, l'avant 81 qui avait été fasciné par l'État, sa transformation radicale, puis l'après 83 qui avait été très gestionnaire et très empirique, et nous ce qui nous intéressait c'était toujours un peu dans la logique du réformisme radical de comprendre qu'est-ce qu'avait été l'État au concret, qu'est-ce que ça avait été que la réforme concrète avec la gauche au pouvoir. Et on avait lancé un certain nombre de monographies, un grand colloque qu'on avait intitulé « Le pilotage des sociétés complexes ». Et à cette occasion, on avait fait émerger le thème de l'évaluation démocratique des politiques publiques.
Oui.
Et on avait créé, lors de ce colloque, qu'on co-organise avec le Nouvel Observateur en 1986, on crée sous forme associative l'Observatoire de la décision publique pour lancer cette question de l'évaluation des politiques publiques.
Oui.
Et Michel Rocard, avec qui j'étais resté en contact, s'intéresse beaucoup à ses travaux, et lorsqu'il devient Premier ministre, il souhaite faire de l'évaluation des politiques publiques un des axes importants de son projet concernant les réformes de l'État et du service public. Et donc à ce moment-là, il me demande de faire une mission institutionnelle pour lancer l'évaluation des politiques publiques en France, puisqu'elle n'existait pas au niveau des politiques publiques, elle existait et encore de façon très limitée sur un plan sectoriel. Par exemple, il y avait une instance d'évaluation mais qui était plus du côté classique de l'évaluation dans l'éducation nationale. Il n'y avait pas d'évaluation de politique publique et on n'avait pas au niveau interministériel. Et donc Michel Rocard me demande de conduire cette mission et de lancer en même temps la première grande évaluation sur la première grande réforme de son gouvernement, qui est la réforme du revenu minimum d'insertion.
Oui.
Et donc je fais tout ça pendant 2 ans et comme un des enjeux pour la suite, pour développer une culture de l'évaluation, c'était de faire bouger les choses aussi dans les corps de contrôle et singulièrement à la Cour des comptes.
Oui.
Et qu'il y avait notamment l'enjeu d'une réforme de rapport public de la Cour des comptes pour aller dans le sens des critères que j'avais mis à l'évaluation démocratique et notamment d'une plus grande transparence, d'un plus grand pluralisme, d'une plus grande indépendance. Et donc, il y a une négociation qui se fait à ce moment-là avec la Cour des comptes pour qu'à travers une réforme du rapport public, on aille dans cette direction. Et notamment que les rapports publics particuliers permettent d'avoir un matériau beaucoup plus public et beaucoup plus soumis à débat que les productions antérieures de la Cour des comptes, où il y avait un rapport public annuel, c'était tout, et qui n'était compréhensible que par les initiés. Puis pour le reste, toute l'activité de la Cour des comptes, c'était des référés et des notes qui étaient inconnues du grand public. Et donc, comme il n'y avait personne de l'intérieur pour vraiment pousser dans cette direction, Michel Rocard me demande à ce moment-là d'aller à la Cour des comptes.
D'accord.
Donc c'est dans cette perspective-là, et moi j'y viens, d'abord j'y viens un peu à reculons, parce que le sentiment que j'avais est au fond le vôtre. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette institution que je trouvais très compassée et conservatrice. Mais j'y viens avec ce projet, poussé par Michel Rocard, poussé par les réseaux qui étaient plus du côté citoyenneté, qui étaient dans l'Observatoire de la décision publique, et avec l'idée de faire en permanence un travail intérieur-extérieur, quoi, pour pas me laisser happer par l'intérieur de l'institution. Et c'est pour cette raison-là aussi que une des choses qui va vite m'intéresser, qui est dans le prolongement de l'évaluation, c'est l'évaluation sur la question de la richesse. Oui. Parce que je vois à quel point les questions économiques, les questions comptables, les questions monétaires sont déterminantes. Et je vois aussi comment le fait que ces questions-là, pris uniquement dans leur bulle, servent le conservatisme dominant. Donc une des choses qui m'intéresse très vite, c'est le lien entre ce que j'appelle les comptes au sens comptable du terme et les comptes au sens C-O-N-T-E-S, ce que Ricoeur appelait les identités narratives, et comment il y a des choix de société fondamentaux qui sont présents,
oui,
derrière les modes de chiffrage, derrière la comptabilité nationale, derrière les systèmes comptables. Donc une des choses qui va m'intéresser, c'est de porter cette question, de réouvrir un débat public sur la richesse que je vais préparer et du côté de la Cour des comptes et du côté de ce que je fais dans mes activités de citoyenneté.
Oui.
Et que je pourrais ensuite réaliser à partir de 2000, quand... à l'occasion de la préparation du centenaire de la loi 1901 sur les associations, Pierre Jox, qui était le premier président de la Cour des comptes à l'époque, me demande si ça m'intéresse de prendre le secrétariat général de cette mission,
oui,
sur le centenaire des associations, en me disant « je vois que toi, dans la Cour, qui a la fibre nécessaire ». Et comme on est en plein dans l'histoire du naufrage de l'Erika, je dis, ben voilà un bon exemple, ce que j'appelle le paradoxe de l'Erika, où on a d'un côté des bénévoles qui vont dépolluer gratuitement les plages, mais eux n'apparaissent pour rien dans la richesse comptable nationale. Et inversement, c'est le désastre de l'échouage du pétrolier qui est compté positivement dans les comptes de la nation, parce que toutes les transactions monétaires générées par le naufrage du pétrolier, la dépollution, etc., tout ça est compté positivement à l'intérieur du produit intérieur brut. Donc je prends cet exemple que j'appelle le paradoxe de l'Erika pour dire c'est une bonne opportunité pour poser publiquement des questions qui sont connues des seuls socialistes sur l'inadéquation de nos systèmes comptables aux grands enjeux écologiques et sociaux actuels. Et comme c'était pas possible de le réaliser dans le cadre de la mission centenaire loi 1901, qui était quand même très marquée par une logique de commémoration assez classique, je négociais à ce moment-là avec le gouvernement Jospin la possibilité de faire une mission spécifique sur ces questions d'une nouvelle approche de la richesse et de le faire dans le cadre du secrétariat d'État à l'économie solidaire qui venait d'être créé.
Et question impossible, en deux mots, quelles sont ces nouvelles approches de la richesse?
Ben, c'est d'une part de dire nos systèmes comptables actuels ont été créés dans un contexte historique bien défini, qui était le contexte de l'après-guerre et de la reconstruction industrielle, et on a choisi un système comptable qui permettait de valoriser de la richesse industrielle, mais au détriment des autres formes de richesse. Et ce système est devenu complètement contre-productif à une période où la plupart des grandes questions, y compris des grandes questions économiques, ne sont plus de l'ordre de la production industrielle, mais sont soit du côté des services, soit du côté des questions écologique au sens large du terme.
Ouais,
et donc, il faut resituer le contexte dans lequel les systèmes comptables ont été construits, dire nous sommes dans une autre époque historique et nous avons besoin de changer nos systèmes comptables. J'ai souvent pris l'exemple de l'histoire d'un marin qui déciderait de changer de cap, qui choisirait par exemple ce qu'il est convenu d'appeler le développement durable. Mais si ces instruments de bord restent calés sur l'ancien cap d'une croissance purement productiviste et à dominante industrielle, il ne pourra pas réaliser son changement d'orientation. Donc il y a tout le nouveau rapport à la définition même de la richesse et à sa mesure d'un côté, et aussi, ça c'est encore plus subversif, un nouveau rapport à l'argent et à la monnaie. Parce que forcément, quand on tire sur cette pelote, les unités de compte qu'on retrouve dans les systèmes comptables, c'est les unités monétaires.
Oui.
Et donc là, je vais commencer à me réintéresser à cette boîte noire de la monnaie et notamment des conditions dans lesquelles il y avait eu un autre transfert absolument non démocratique qui s'était opéré dans les années 70, où l'essentiel de la création monétaire avait été transféré vers les banques commerciales privées, tout ça sans aucun débat démocratique, avec des conséquences tout à fait considérables, en particulier le processus d'endettement des États, qui vient directement de là. Et donc, dans la nouvelle approche de la richesse, il y a ces deux volets. Alors, quand j'ai fait la mission à l'époque, c'était vraiment considéré comme marginal, des travaux de pionniers, mais j'ai pu, grâce au programme des Nations Unies pour le développement, avoir tout de suite une base internationale. Et quand on a organisé la rencontre « Considérons la richesse » en 2002, on l'a fait conjointement avec les Nations Unies. Et donc, du coup, et le président de la République et le premier ministre ont été obligés de s'y intéresser. Alors que sinon, il y avait juste le secrétariat d'État à l'économie solidaire. Et entre-temps, cet enjeu est devenu un enjeu fondamental, puisque c'est maintenant devenu une des grandes questions publiques internationales débattues. Et puis, Joseph Stiglitz s'est mis à s'intéresser à cette question avec toute son autorité, et donc la commission qui a été créée à cet effet montre bien à quel point cette question est fondamentale.
Parce qu'il y avait un grand meeting à Porto Alegre, c'est ça?
Ah ben, c'est plus qu'un meeting, c'est le Forum social mondial de Porto Alegre. Oui, moi j'ai été parmi les premiers à participer à la création de ce forum social. Entrez, entrez.
On a presque terminé.
Ça y est, on a presque terminé, mais viens.
Alors,
On est vraiment en train de terminer la
dernière question. Sur vos sentiments d'aujourd'hui sur cette période-là, vous avez dit tout à l'heure que à un moment, les gens que vous avez trouvés à votre gauche, vous les avez trouvés à votre droite. Mm-hmm. Et moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, que votre parcours a une certaine unité depuis le début jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est votre sentiment? Et quel a été le rôle de 68 là-dedans?
Oui, moi, j'ai le sentiment... Alors, évidemment, il y a des tas d'évolutions, de mutations, etc. Mais globalement, moi, je me sens dans la continuité de, disons, de mes rêves d'adolescent. Et 68 est pour moi un moment de lumière. Et j'ai écrit il y a quelques années un texte que je continuerai à signer aujourd'hui. Qui s'intitulait « Les questions de 68 ne sont pas derrière nous, mais devant nous ». Et justement, parce que j'étais plus sensible à cet aspect à la fois culturel et civilisationnel et planétaire de 68 qu'à l'aspect proprement politique français, moi, par exemple, contrairement à Danny Cohn-Bendit, je ne dirais pas « Oublions 68 ». Je pense que 68 a vraiment... Et internationalement, parce que c'est un mouvement d'est en ouest et du nord au sud, mais ouvrir la première grande brèche d'après-guerre des sociétés de consommation obsédées par la question de l'avoir, et que, alors entre-temps, la force de la question écologique et climatique nous montre bien aujourd'hui que on ne peut pas poursuivre dans la voie d'une croissance productiviste organisée uniquement autour de la consommation et de l'avoir. Et toutes les questions de mode de vie, les questions dans l'ordre de l'être, au sens large du terme, qui avaient été ouvertes par 68, elles sont devant nous. Et j'analyse plus les phénomènes de la révolution conservatrice anglo-saxonne ou du sarkozysme en France, plutôt dans les termes d'une résistance à un mouvement historique en profondeur qui s'est fait jour, plus de la contre-révolution culturelle, pourrait-on dire, que des phénomènes qui viendraient signer la fin. Oui. Moi, je pense que la 68, la vie m'a interrogé sur une interview que j'avais faite justement quand j'étais responsable de l'AGEC, et j'ai appelé ça une révolution spirituelle inachevée. C'est-à-dire, je pense que 68 a ouvert une brèche, mais comme le disait Michel de Certeau, elle est restée superficielle et paradoxalement trop unidimensionnelle par rapport à la critique que faisait Marcuse, et que y compris sur ces terrains de prédilection, notamment de la libération sexuelle, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, est resté à un niveau superficiel. Donc, je ne suis pas dans une idéalisation de 68, mais je pense que la brèche ouverte par 68, elle, c'est une brèche de nature historique qui ouvre un nouveau cycle historique, et que ces questions-là, elles n'ont pas fini de se poser, qu'elles sont structurantes pour l'avenir. Donc, pour moi, 68, ça reste un moment lumineux et une source de vie ultérieure, enfin qui n'a cessé de me nourrir.
D'accord, on peut terminer là. Merci infiniment de votre témoignage.
Voilà.